L'histoire est comme un clin d'œil, furtif, aux conséquences parfois inattendues. Clin d'œil à l'histoire,
une émission présentée par Raphaël
et Ben le samedi matin à 11h
sur Radio Bartas 107FM. Vaccin. En cette période de trouble, le débat fait rage, pro ou anti. Pour certains, c'est la seule solution pour se sortir de là. Pour d'autres, c'est une aberration. Dans ce nouveau numéro de Clin d'œil à l'histoire, avec mon acolyte Raphaël, nous allons revenir sur la naissance et l'évolution du vaccin à travers le temps. Pourquoi et quand le vaccin est-il né? Qui l'a réellement inventé? Et pourquoi a-t-il toujours fait polémique?
Une vaccination n'est jamais sans risque. Aussi, plus le gouvernement inspire confiance, plus les populations acceptent d'y recourir. Au 19e siècle, malgré les efforts des médecins, la lutte contre la variole par inoculation de la vaccine a effrayé les Français.
Tiré du magazine L'Histoire de février 2011. Aujourd'hui dans Clin d'œil à l'Histoire, le vaccin. Quelle est l'histoire de la vaccination ?
Alors, la vaccination est l'aboutissement d'un très long processus qui pourrait nous faire remonter en fait aux origines de la médecine, dont on peut simplement finalement citer ici le grec Hippocrate du 5e siècle avant Jésus-Christ, ou encore Averroès au 12e siècle. Pour l'anecdote, on trouve la plus ancienne faculté de médecine à Montpellier, créée au 13e siècle. La vaccination est découverte, elle, beaucoup plus tard, au 19e siècle, et est encore aujourd'hui l'une des plus grandes avancées de la médecine.
Alors pourquoi justement au 19e siècle ?
Alors, au XIXe siècle, nous sommes à un tournant de la médecine. Jusqu'alors, cette discipline mêlait herboristerie, astrologie, superstition, traités de penseurs antiques et même de la religion. Au XIXe siècle, on est héritier du travail des Lumières et de la naissance de la microbiologie. On découvre l'origine microbienne des maladies, par exemple, d'où l'importance croissante de l'hygiène. Et dans ce contexte, on essaie plus uniquement d'accompagner les malades en les isolant dans des hospices, et en leur administrant des soins qui sont principalement palliatifs, mais on essaie dès lors de prévenir la maladie. Ces hospices deviennent vraiment des hôpitaux qui se vident des vagabonds pour être réservés aux seuls malades, en même temps qu'ils deviennent des lieux d'enseignement et de recherche où sont formés de futurs médecins. Et dans tout ça, dans ce contexte-là, nous avons l'hygiène qui joue un rôle fondamental, tant dans la médecine que dans la politique tout au long du XIXe siècle. Par exemple, c'est au cours de ce siècle que le baron Haussmann est chargé par Napoléon III de moderniser et d'assainir Paris, qui vient de subir une terrible épidémie de choléra. Haussmann écrivait au sujet, par exemple, du canal Saint-Martin qui alimentait Paris en eau potable que, je cite, « l'eau du canal est froide en été, chaude en hiver et louche en toute saison
». Et donc c'est pas nouveau, on a essayé de prévenir les maladies.
Oui, on essayait, mais même si en fait ça existait déjà en Orient, il existait une méthode pour prévenir la variole par exemple qui a été ramenée en Europe par Lady Montagu. Cette femme d'ambassadeur a vécu avec sa famille à Istanbul à partir de 1716 et elle découvre là-bas le procédé qu'on appelle de variolisation qui consiste en fait à inoculer volontairement la variole en la prélevant sur un sujet qu'on juge faiblement malade. Et elle fait appliquer ce traitement avec succès à son fils, dans un premier temps. Puis, après son retour à Londres en 1721, elle fait varioliser sa propre fille devant tous les médecins de la cour royale. Et ainsi, le procédé de variolisation va se diffuser lui aussi en Europe. Toutefois, ce procédé, ancêtre de la vaccination, reste risqué puisqu'il peut être mortel dans 1 ou à 2% des cas. Et son efficacité n'est d'ailleurs pas extrêmement fiable non plus.
Et comment est-ce qu'on en arrive justement à la vaccination ?
Alors, on y arrive un petit peu plus tard, c'est un autre Anglais qui découvre la vaccination en 1796. Il s'appelle Edward Jenner et découvre l'effet immunisant de l'inoculation d'une maladie bovine, qu'on appelle la vaccine, toujours contre la variole. C'est d'ailleurs de là que vient le mot « vaccin ». Il est le premier médecin à avoir introduit et étudié de façon scientifique le vaccin contre la variole, et il est ainsi considéré comme le père de l'immunologie.
Attends, ça veut dire que c'est pas Pasteur qui a découvert le vaccin ?
Pas vraiment, Pasteur est le premier lui à avoir vacciné un homme contre la rage. Avant ça, il est quand même reconnu hein, pour avoir fait tout un tas de choses, notamment la pasteurisation, le procès de pasteurisation. Et il est reconnu aussi comme étant un très grand immunologiste, puisqu'il a travaillé sur de nombreuses maladies animales et a mis au point tout un tas de vaccins sur le choléra de la poule, le rejet du porc, tout ça. D'ailleurs, dans les années 1865-1869, il est envoyé par Napoléon III à Alès pour trouver un remède à des maladies touchant les vers à soie. Et encore aujourd'hui, à Alès, nous trouvons une statue en l'honneur de Pasteur, sauveur des vers de la soie.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM. On parle de vaccins aujourd'hui avec Raphaël. Quel impact cette avancée a-t-elle eu sur la société ?
Alors ça a eu une importance capitale. Les campagnes de vaccination et les aménagements de salubrité publique ont permis très concrètement de faire chuter la mortalité, notamment la mortalité infantile. En 1850, l'espérance de vie d'un Français était en moyenne de 40 ans environ. Moins de 100 ans plus tard, en 1950, les Français vivent déjà en moyenne 25 ans de plus. Et si ça a très bien fonctionné, c'est aussi parce que l'État impose des campagnes de vaccination collective et obligatoires, notamment à partir d'une loi en 1902 où le vaccin contre la variole et son rappel sont imposés à tous les Français. C'est ce qui a permis de construire une immunité collective à cette maladie. Ainsi, on considère que la variole a totalement disparu du territoire français en 80 ans. En conséquence, le vaccin contre la variole n'est plus administré en France à partir de 1984.
Et juste pour rebondir là-dessus, en Italie, ils ont enlevé le vaccin contre la rougeole et des cas de rougeole extrêmement graves chez les enfants sont revenus. Voilà. Bon, malgré tous ces progrès, hein, et pour revenir à ce dont on parle, il reste aujourd'hui une réticence à se faire vacciner. Et oui, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Alors, il faut reconnaître qu'il y a eu de nombreux scandales dans les domaines de santé publique au cours des dernières décennies. Je pense au Mediator, à l'affaire du sang contaminé, aux hormones de croissance, etc. Il faut reconnaître aussi que l'industrie pharmaceutique a ses intérêts économiques propres, ce qui peut susciter une certaine méfiance de la part des citoyens. Toutefois, des études ont montré que les campagnes de santé publique sont un bon révélateur de la confiance que la société accorde à l'État. On l'a vu récemment, notamment en 2009, avec la campagne de vaccination de la grippe H1N1. Les meilleurs taux de vaccination ont été enregistrés dans les pays où les gouvernements venaient d'être élus ou réélus, comme aux États-Unis, au Canada ou en Suède. En revanche, les moins bons résultats sont rencontrés dans les pays où les gouvernements étaient au plus bas dans les sondages, ce qui était d'ailleurs le cas en France ou en Espagne ou encore en Allemagne. On l'avait aussi observé lors de l'épidémie déjà de choléra en 1832. Une rumeur s'était répandue à Paris qu'il ne s'agissait pas d'une réelle épidémie, mais d'une tentative délibérée des notables d'empoisonner le peuple.
Ça fait écho évidemment à ce qu'on vit aujourd'hui. Je te propose, Raphaël, qu'on fasse une petite pause et qu'on écoute Sylvie, médecin généraliste que j'avais interviewé il y a quelques semaines.
Je pense qu'on va pouvoir s'en sortir si tout le monde est vacciné aussi, enfin tout le monde. La majorité des personnes peuvent se vacciner. Je pense qu'il n'y aura plus où aller le virus. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire, il faut lui mettre des boucliers. Et le bouclier, c'est le vaccin, il n'y a pas à tergiverser. Donc les gens ont peur, le français n'aime pas trop le vaccin, il est un peu timide. Mais en fait, il n'y a pas 36 solutions au vaccin, il faut bénéfice-risque. Faut observer ça. Le bénéfice, de toute façon, est largement plus élevé que le risque, qui sont quelques arthralgies, douleurs articulaires, la fatigue. Et puis, il faut avoir vacciné des millions de gens pour voir les conséquences. Pour l'instant, je pense qu'aucun scientifique ne peut dire si on vaccine 1 ou 2 millions de personnes, on est sûr qu'il n'y aura pas d'autres conséquences. On n'en sait rien. C'est sur le nombre de gens vaccinés.
Il faut dire aussi qu'une nouvelle technologie a été mise en place, hein, qu'on appelle les ARN messengers. L'idée, c'est d'injecter dans l'organisme des brins d'instruction génétique. Contrairement aux vaccins existants, on n'inocule plus des bribes de maladies. C'est ça. Un peu ça, c'est comme ça que ça
marche. On n'inocule pas de virus atténué ni tué, ce qui fait qu'on ne risque pas de développer la maladie à minima. Encore une fois, informons le public de ça, il aura moins peur.
C'est ça, c'est faire preuve de pédagogie.
Oui, voilà. Avec des mots simples, avec des choses simples, c'est tout ce qu'on veut entendre pour calmer la... C'est l'ignorance qui donne la peur.
c'est sûr. Là, en plus, donc l'organisme va développer lui-même les anticorps. On n'a plus besoin de cultiver les pathogènes en labo, d'où le fait que son élaboration soit plus rapide et plus simple.
C'est plus rapide, et puis c'est un coronavirus. Ce n'est pas, c'est un virus qu'on connaît. Pas celui-là, mais on le connaît. Donc, je pense que les scientifiques savent faire un vaccin assez rapidement. Quelques labos s'y sont mis et... Alors, il y a des petites différences, mais de toute façon, le bénéfice prévaut sur le risque.
Il n'y a que le vaccin pour vous permettre de sortir de cette situation.
Vaccin, plus geste barrière. C'est plus. C'est-à-dire, c'est vaccin, geste barrière, une autre façon de vivre, qui n'est pas très agréable, mais il faut maintenant, je pense que tout le monde a compris qu'il fallait se dépêcher pour sortir de là, parce que maintenant, c'est notre peste.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM. Raphaël, tu l'as dit, qu'on avait observé lors de l'épidémie de choléra de 1832 cette rumeur qui a couru comme quoi les notables voulaient empoisonner le peuple. Il y avait donc déjà des complotistes à cette époque-là.
Oui, en effet, pourtant, enfin, c'est pas vraiment l'effet recherché. En fait, on peut aller plus loin en suivant ce principe de solidarité qui s'instaure dès la Troisième République et qui a inspiré justement la loi de 1902 dont nous avons parlé tout à l'heure. La vaccination collective relève en fait d'une responsabilité civique que nous partageons tous, de la même manière que les principes d'hygiène et de salubrité publique. Par exemple, nous n'irions pas vidanger nos fosses septiques chez le voisin. C'est bien la même idéologie qui nécessite une adhésion collective aux mesures contre le réchauffement climatique.
Auditeurs, auditrices, n'hésitez pas encore et encore à aller chercher des informations sur l'importance d'un vaccin, faites-vous votre avis. Mais de toute façon, comme l'a dit Sylvie, c'est évidemment le vaccin et les gestes barrières notamment qui nous permettront de reprendre, on l'espère, une vie normale. C'était Clin d'œil à l'histoire avec Raphaël et Ben. On se retrouve dans un mois. Et oui.
Ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.